Jeudi 10 avril, Fréquence Mistral s'est rendue à l'espace Micropolis à Gap. Une soirée y était organisée par Total Energy pour proposer aux acteurs du territoire des Hautes-Alpes de se réunir et échanger sur les sujets tels que la mobilité et l'énergie. À notre micro, pour nous présenter la soirée, Jean-Michel Diaz, directeur Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de Total Energy.
Alors, ce soir, nous allons discuter à la fois du développement économique et de la décarbonation des territoires de montagne. Et donc ça s'inscrit dans un cercle de réflexion qui a une vocation régionale. Donc nous avons lancé en 2022 une démarche qui s'appelle « Territoire des énergies et au-delà ». Et le but de ces cercles de réflexion, c'est que nous, Total Energy, on considère qu'être un grand acteur économique, c'est bien, mais si en plus on accompagne les territoires dans leur transition, qu'elle soit énergétique, environnementale et sociétale, eh bien, c'est encore mieux. Et donc, le but, c'est de venir finalement agiter les esprits, brainstormer ensemble, échanger. On est une grande entreprise responsable, certes. On a une activité économique à développer, mais elle doit être au service de cette lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est pour ça que Total Energy développe de plus en plus ces énergies de transition et les énergies du futur qui vont permettre d'avoir une planète durable.
Cela semble plutôt clair. Total Energy aimerait se positionner comme acteur de la transition et surtout comme étant au plus proche des territoires dans leurs enjeux économiques et climatiques.
Notre objectif, il est d'accompagner les territoires dans leur transition et on est là pour les aider. Et donc, on vient apporter notre éclairage, notre compétence au travers de ces débats. Les territoires de haute montagne, ils ont des spécificités, que ce soit bien évidemment les stations de ski, donc avec des particularités d'une part, mais vous avez aussi le tourisme, vous avez l'immobilier qui est souvent ancien, où il faut venir améliorer son efficacité énergétique, eh bien, il y a un ensemble de dispositifs qui existent. On vient faire en sorte que les gens échangent sur tous ces dispositifs qui vont permettre à la fois d'assurer une continuité de développement économique, tout en répondant à cette exigence qui est de se décarboner, faire sa transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique.
Il s'agissait de la première soirée de ce type sur les Hautes-Alpes.
Ce soir, on aura une trentaine de personnes. Le but, c'est de ressortir de cette séquence avec des idées pour continuer nos travaux. Ces idées, elles vont donner lieu à un plan d'action et on assurera en fait un suivi et une continuité de ces actions avec Total Energy qui vient apporter ses compétences techniques dans le domaine pour permettre un développement économique durable sur le territoire de haute montagne.
Deux tables rondes étaient proposées, toutes deux animées par M. Yves Blisson, créateur du média M-Provence. Et ces deux tables rondes portaient, pour l'une, sur la transition énergétique de la mobilité et pour l'autre, sur les enjeux et opportunités du travail et de la production en montagne. Et oui, les intitulés sont longs, mais les questions sont nombreuses. Bien sûr, il s'agissait notamment de présenter les compétences techniques de Total Energy, que vient d'évoquer Jean-Michel Diaz. Parmi ces compétences, le développement de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire l'installation de panneaux solaires sur les cultures agricoles. Cette solution était présentée par Nicolas Ferras, directeur agri-énergie de Total Energy et directeur général d'Ombrea, filiale dédiée à l'agrivoltaïsme.
Les énergies renouvelables et le monde agricole sont des thématiques qui sont partagées. Ça a commencé avec les biocarburants, la méthanisation, l'agrivoltaïsme. Et l'enjeu, c'est de gérer la coactivité, c'est-à-dire la pratique agricole en même temps que la génération d'une valeur supplémentaire autour de l'énergie. L'agrivoltaïsme, aujourd'hui, notamment dans le sud de la France et ici, est sûrement l'une des combinaisons les plus en vogue, c'est-à-dire se servir de la production solaire pour créer des microclimats, notamment par l'ombrage, de manière à sécuriser les rendements agricoles. C'est les aider à faire face à des aléas climatiques, stress thermique en été, risque de gel l'hiver, et en créant des microclimats, on peut essayer de pérenniser et stabiliser la production agricole. La vocation agricole de l'agrivoltaïsme, c'est créer de la performance agricole, créer de la stabilité de revenus par la production agricole pour l'agriculteur et aussi travailler à la coactivité avec lui. Il y a une loi qui s'appelle la loi APER qui régit ce qui est un bon projet agrivoltaïque, c'est-à-dire qu'il doit avant tout être un service à l'agriculture et à l'agriculteur. C'est comme toute chose nouvelle, elle doit faire ses preuves. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les agri-énergies qui vont sauver le monde agricole, donc il faut de l'humilité dans cette approche-là. Il faut convaincre, il faut démontrer. Aujourd'hui, on a plus de 13 sites en France pilotes sur de multiples typologies d'agriculture, à la fois arboricole, viticole, céréales, grandes cultures. Et on doit démontrer sur un horizon de pas, de temps, de 2, 3, 4, 5 ans, la viabilité de ces modèles-là. Il ne faut pas avoir peur aussi de parler des fois des choses qui marchent moins bien ou des choses qu'on ne sait pas encore. Il reste des choses à creuser. Par contre, il faut s'ouvrir et s'ouvrir à tous les territoires. On est dans une zone de polyculture élevage et c'est normal de se poser aussi la question d'opportunités qui visent à stabiliser certaines filières agricoles, qui visent à juguler les problématiques, notamment d'accès à l'eau. Donc en fait, c'est un cercle, c'est un écosystème et je pense qu'on doit tous y travailler de manière collective pour essayer de trouver des solutions.
Jean-Michel Diaz insiste.
C'est comme bonus puisque l'agriculteur, il peut être partie prenante de la société qui est créée, il a des retombées économiques, donc c'est un des exemples, mais l'agrivoltaïsme est une solution qui est d'abord faite pour améliorer la performance agricole et elle a un effet second qui est de produire de l'énergie renouvelable. Et donc, il n'y a pas d'artificialisation, puisque, en fait, il y a d'abord un sol agricole qui est utilisé pour produire des fruits et des légumes et des céréales. L'agrivoltaïsme vient finalement apporter un plus à cette production agricole.
Bien sûr, l'agrivoltaïsme n'était pas le seul sujet de la soirée. Valérie Logier intervenait sur l'une des tables rondes pour parler de l'accompagnement à la rénovation énergétique.
Donc Valérie Logier, je dirige la filiale de proximité de Total Énergie sur le grand quart sud-est de la France, donc sur 25 départements.
Elle nous explique.
On accompagne nos clients sur le financement de leurs travaux d'économie d'énergie. Vous savez qu'en France, Total Énergie, en tant que producteur d'énergie, finance chaque année 1 milliard de travaux d'économie d'énergie. Et la filiale que je dirige finance sur les 25 départements du quart sud-est 35 millions chaque année de travaux d'économie d'énergie, aussi bien pour les particuliers avec l'isolation des combles par exemple, que des professionnels. Par exemple, dans la région, on a pu accompagner l'hôtel Vauban à Briançon pour l'isolation de son réseau de chauffage et d'eau chaude sanitaire, où on a pu financer à 100% ces travaux. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir être identifié comme un acteur local de proximité qui peut accompagner les acteurs aussi bien particuliers que collectivités locales ou professionnelles dans leur transition énergétique. Et nous, on peut les accompagner à deux niveaux. Sur le financement, c'est ce qu'on vient d'évoquer ensemble, mais aussi sur les produits. Par exemple, on commercialise aujourd'hui un biocarburant qui est un carburant zéro pétrole. Il n'y a pas une goutte de pétrole dedans. Il ne nécessite aucune modification sur le moteur, aucun investissement, pas d'investissement non plus sur des cuves qui seraient dédiées. Il est complètement miscible. Donc, c'est un produit que je qualifierais de magique. Moi, ça fait 33 ans que je travaille dans la profession. J'ai jamais eu un produit aussi séduisant à vendre, puisque grâce à ce produit qui s'appelle l'HVO, vous pouvez réduire vos émissions entre 60 et 90%.
Et si ce produit, justement, est aussi séduisant, comment est-ce que vous expliquez qu'il soit encore plutôt méconnu et assez peu utilisé ?
Alors, il est de plus en plus connu. Les quantités que j'ai commercialisées en 2023 avec ma filiale et les quantités que je vais commercialiser en 2025, eh bien, on fait x30 en 2 ans.
Parmi les intervenants invités pour échanger, Joël Giraud.
Je suis Joël Giraud, je suis député honoraire des Hautes-Alpes et j'ai été ministre de la cohésion des territoires et de la ruralité pendant un peu plus de 2 ans dans le gouvernement de Jean Castex. Je pense que parler de la mobilité et mettre ça en perspective avec les futurs JO 2030, c'est participer de manière efficace à la décarbonation de notre société, particulièrement dans les Alpes du Sud, parce que malheureusement, l'alternative avec les transports publics est souvent en faveur de la voiture.
Et donc, ce que vous avez envie d'apporter, c'est justement toute une réflexion autour de cette mobilité-là.
C'est cela, d'autant que j'ai commis un rapport qui était un rapport sur l'avenir de la montagne en 2030. Je suis afin de quitter mes fonctions. J'essaye aussi de faire du prosélytisme pour ce rapport qui n'était pas si mauvais que ça et dont je trouve qu'on ne s'en est pas assez saisi sur les territoires.
Et
le rôle de Total Energy dans tout ça peut être un rôle extrêmement important parce qu'il y a des nouvelles techniques, des nouvelles technologies qui font que ce qui était autrefois une mobilité carbonée peut devenir aussi une mobilité décarbonée parce qu'on a changé de mode tout simplement d'approvisionnement ou de mode de combustion, on va dire, d'un certain nombre de choses, qu'il s'agisse des véhicules, qu'il s'agisse aussi de tout ce qui est aujourd'hui un véritable enjeu chez nous, c'est-à-dire la rénovation du bâti, parce que c'est là qui est le véritable enjeu, notamment dans le massif alpin.
Dans les personnalités ayant répondu présent, il y avait également le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, M. Denis Philippe. Pourquoi sa présence ?
D'abord parce que j'ai répondu poliment à l'invitation et qu'ensuite, si on donne la possibilité aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et à la Chambre régionale de s'exprimer, c'est bien volontiers que je viens m'exprimer au nom de la réalité de l'ESS dans ce département, qui est une réalité très très forte parce qu'il y a une histoire d'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes, c'est une histoire qui continue, donc je pense que j'aurai des choses à dire ce soir.
Vous êtes originaire du territoire, est-ce que vous avez des choses à apporter sur ces réflexions-là ou plutôt qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ?
Nous, on a apporté ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la proximité. Après, quand on va sur le sujet de la mobilité, c'est un sujet qui concerne tout le département et tous les acteurs économiques, effectivement. Pour autant, on peut apporter, nous, des solutions. Et dans les projets qui peuvent être engagés pour l'avenir, nous avons des entreprises de l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans le bâtiment, dans d'autres domaines, qui peuvent tout à fait intervenir. Donc, on peut apporter des réponses. Je donnerai un exemple. On sait qu'il y aura les Jeux Olympiques dans ce département pour les Jeux d'hiver. Ça fait l'objet de nombreux débats. Pour autant, si on reprend l'histoire des JO Paris 2024. Nous avons des entreprises de l'ESS qui ont répondu à des appels d'offres et qui ont très bien fait le travail qu'on attendait d'elles. Donc on peut tout à fait imaginer, et il y en aura, que des entreprises de l'ESS soient partie prenante dans l'organisation des JO à venir. Et la réflexion du développement du département, ce qu'il doit devenir demain, bien sûr que ça nous intéresse en premier chef. Moi, j'entends écouter d'abord ce qui va se dire, mais surtout, ça me donne la possibilité d'expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce qui n'est pas forcément compris par tous. Et longtemps, on a opposé les modèles économiques. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille opposer les modèles économiques. Par contre, exposer, expliquer ce qu'est notre réalité, ça me semble intéressant. Et peut-être sortir de la caricature. Quand on donne les expériences d'économie sociale et solidaire, on a parfois des expressions ou des images caricaturales. Il y a une réalité qui est tout autre et c'est bien de le rappeler.
Quand on pense à l'économie sociale et solidaire, on ne pense pas forcément à une discussion possible avec Total Energy. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ?
Moi, je n'ai pas de sujet dans la mesure où ils nous invitent, je discute avec eux, ils sont une réalité. Si on peut les accompagner sur une vision beaucoup plus responsable, s'ils vont sur des sujets de décarbonation par exemple, ou de développement durable, ou d'amélioration de la RSE, pourquoi nous on serait défavorables ? Je pense qu'on peut apporter, si vous permettez, une certaine expertise. Donc moi ça ne me pose pas de problème, je vous le disais, je ne veux pas opposer les modèles économiques. Par contre, oui, je crois à la réalité d'une autre de modèle qui fait ses preuves depuis longtemps et qui a encore la capacité de faire des preuves. Il n'y a pas un domaine auquel on puisse penser en matière d'entreprise qui ne soit pas pourvu également dans l'économie sociale et solidaire.
Fréquence Mistral n'a malheureusement pas pu assister à la totalité de la soirée, mais un compte-rendu sera communiqué et nous vous tiendrons bien sûr au courant.